Voilà, bonjour à tous, on veut rendre grâce ensemble. Christ Jésus, merci pour ta parole vivante, merci de parler à nos cœurs, à nos esprits. Merci de nous aider par ton esprit à la comprendre, à la vivre, à la mettre en pratique. Merci pour un esprit de révélation au milieu de nous. Amen. Voilà, la parole prophétique de Juliette a pratiquement résumé ce que j'allais dire ce matin. Donc on est à peu près dans le même thème. La semaine dernière, en présidant le culte, j'avais été rechercher un vieux chant. Ça date des années 1900. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous, je veux vous sauver tous, je vous aime tous. Donc ça a été écrit par Cinquet, un homme qui avait une voix pour chanter du gospel. Il a écrit 1200 chants. Il a accompagné le revivaliste Moody aux États-Unis et Spurgeon. Et comme on dit, c'est un homme qui était considéré dans toutes les églises anglophones. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de l'église. Église locale ce matin, église universelle. Un seul Dieu, et l'Écriture dit une seule église. Avec Jean-Marc, on est abonné au cahier de l'école pastorale, c'est les milieux baptistes. Là, on vient de recevoir le dernier numéro spécial. L'église grand angle, penser au-delà de l'église locale. Ce qui est intéressant, je trouvais dans le petit résumé qu'il y a là derrière, il dit quelque chose qui m'a choqué, puis en même temps, je me dis, bon... Il disait, Jésus n'a pas un harem, il n'a qu'une seule épouse, l'Église. Je me disais, l'expression est un peu, c'est un petit peu comme du rabot. Des milliers d'églises locales, des dizaines, voire des centaines de confessions chrétiennes, de dénominations. Et quand Jésus regarde l'Église, il n'y a qu'un seul corps, il n'y a qu'une seule Église. Wow. C'est ma conviction depuis des années, c'est pour ça que, voilà, avec Jean-Marc aussi, on s'est aussi engagé en écuménisme. Voilà, j'ai fait ma petite réaction au début de ma conversion. Voilà, j'étais baptisé catholique, comme on dit, communion, confirmé. 4 ans de pensionnat catholique, et puis quand je me suis converti à 22 ans, je me suis dit, waouh, il faut démolir les idoles, il faut, voilà, j'aurais dynamité un petit peu tout partout. Et puis, je peux être assez radical parfois. Et puis, au fur et à mesure des années, et puis en sortant du collège biblique, voilà, le Seigneur m'a montré une seule Église. Comment est-ce que Christ peut avoir conscience de son corps, ce corps de Christ? C'est une image que l'apôtre Paul utilise. Il y a plusieurs images de l'Église. Mais dans cette image du corps, comment est-ce que Jésus dans le ciel peut voir toutes ces dénominations? Et comment est-ce qu'il peut voir qu'une seule Église? L'Église de Christ est là présente ce matin à Kevin. Elle est sur l'Orient, sur la France, dans le monde entier. Il y a une Église du silence dans les pays où on est persécuté. En Chine, au Moyen-Orient, tous les pays d'Asie, etc., etc. Partout où c'est compliqué d'être chrétien, ou si on lève la tête, on risque de se la faire couper. Donc tout le monde reste discret. Tout cela, c'est l'Église de Christ. Jésus est au milieu de son Église. J'aimerais reprendre des textes qu'on a lus la dernière fois, il y a quelques semaines, mais voilà, j'aimerais juste les relire. C'est cet acte de foi de de Matthieu dans son évangile, et puis voilà, où il a dit à Pierre quelque chose d'important, Pierre 16, 17, 19. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole, lui, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, que sur ce roc je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Pour moi, la compréhension de l'Église est aussi liée à la révélation de l'Esprit de Dieu. Sans révélation, on a du mal à voir depuis 50 ans. Avec Jean-Marc, voilà, on rencontre beaucoup de gens, puis beaucoup de chrétiens qui tout d'un coup disent « Oh, ben moi, je suis très bien à la maison, avec mon Seigneur, avec Jésus, avec ma Bible, avec mon smartphone, puisque maintenant, on a accès à toutes sortes de choses sur le web. Et puis, cela me suffit. » Je dis « Non, là, il manque une dimension. » On poursuit avec dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 18, les versets 18 à 22. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 77 fois. 70 fois, 7 fois. » Enfin bref, ça fait un nombre en calcul. Vivre en Église, ça demande du pardon. On se dit, mais pourquoi après cette révélation de l'Église, pourquoi Jésus, pourquoi Pierre dit, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut pardonner? Ce texte fait suite à un contexte de jugement, de discipline, de scandale, où il a dit que si on scandalise les enfants, le jugement sera un peu serré. Aujourd'hui, si vous écoutez les médias, hein, les enfants, les jeunes ne sont pas épargnés. Bagarre entre gangs, encore avant-hier, une jeune fille de 11 ans, perdu la vie, vous imaginez, pour les parents, pour les copains, les amis, pour l'école, pour... Voilà, c'est ça. Une dame qui s'exprimait, disait, j'ai le cœur broyé. On a entendu un témoignage ce matin, hein, des enfants qui traversent... Il vaut mieux prier pour les enfants que les juger ou les maltraiter. C'est dans ce contexte qu'il est dit que voilà, on peut lier et délier. Dans la prière, dans Mère en prière, on peut délier, amener la bénédiction sur ceux qui sont autour de nous. C'est une responsabilité collective de l'Église. C'est une, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Je me rappelle le témoignage de quelqu'un, c'est dans les livres Puissance de la louange et puis de la prison de la louange, quelqu'un qui venait de se convertir et puis pour une raison X, il est allé à l'hôpital et puis il entendait ses voisins de lit qui respiraient mal. Voilà, simplement prier, Seigneur Jésus, à respirer, à guérir, à aller mieux. Et ses deux voisins, les deux, trois jours après, aller mieux. L'Église échappe à toute définition intellectuelle. Même moi qui aime l'histoire de l'Église, ça ne me permet pas de comprendre encore tout ce qu'est l'Église. C'est quelque chose qui me dépasse, qui est plus grand que moi. Et depuis 50 ans, je me dis, ouais, Seigneur, c'est un tel privilège que de vivre, que de collaborer, que de construire ton Église. C'est un projet de Dieu qui dépasse l'être humain, qui dépasse les politiques, l'économie, le social. C'est plus grand que tout. On n'en prend pas toujours conscience. C'est pour ça que j'ai à cœur, et c'est bien dans cette Église, prier pour que chaque être humain sur la terre ait accès à l'Écriture dans sa langue. Que l'Église voilà, puisse s'implanter dans le monde entier. Je veux dire, parfois, voilà, ces réseaux sociaux qui, voilà, je n'ai pas une affection particulière pour tout, mais le côté intéressant, c'est que quelqu'un qui est en péché de vivre sa foi au niveau public peut, dans sa chambre, avec son téléphone, avoir accès à la parole de Dieu, à des témoignages. Voilà, c'est précieux. Prions pour bénir tout ce qui est diffusion de l'écriture, du témoignage, de la vie de l'Église. Si deux d'entre vous s'accordent, c'est pas beaucoup, hein, deux. Deux, on est déjà à l'Église. Là où deux ou trois s'accordent, c'est-à-dire prennent du temps pour partager. Une réunion de prière, c'est déjà prendre un temps de partage, se mettre d'accord. Je dis souvent, nous on l'a vérifié avec Catherine depuis 40 ans, on prie à table le midi. Quand un couple, quand on se met d'accord sur ce qu'on a prié, j'allais dire à l'aide, pratiquement 90% des prières sont exaucées. Parce que Dieu se plaît avoir des êtres humains qui s'accordent devant sa face, parce qu'il est au milieu. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ah, quelle promesse! Tout seul, je suis limité. Tout seul, vous êtes limité. Tout seul, nous sommes limités. Ensemble, c'est quelque chose de plus grand. C'est aussi un mystère. L'Écriture nous dit que, voilà, on le dira tout à l'heure, l'Église est aussi un mystère. On n'a pas besoin de tout comprendre, tout savoir. Simplement, ça marche. Ça marche. Je suis attaché, moi, à une vie d'Église depuis tant d'années. Je crois qu'on n'a pas trouvé mieux. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre du temps voilà, pour dialoguer, s'accorder, se pardonner. Pierre, il a un petit souci, il se dit, ah, combien de fois il faut pardonner? Peut-être qu'une fois, deux fois, trois fois, je vais réussir. Est-ce que je peux réussir 70 fois cette fois? On est à 539. Hein. Quand on aime, on ne compte plus, on pardonne. Le père du fils prodigue le vit de loin et puis se dit oh, « mon fils est revenu ». Apprendre à pardonner soi-même, c'est difficile de pardonner les autres quand on ne sait pas pardonner à soi-même. Ma première année de vie chrétienne, j'ai passé pratiquement tous les soirs, pendant pratiquement plusieurs années, tous les soirs j'ouvrais l'écriture et puis voilà. Cette douce voix du Saint-Esprit qui venait, puis qui disait, voilà, quels sont les obstacles, les difficultés que tu as traversées? Est-ce que tu peux revenir en arrière, les placer devant ma face, et apprendre à pardonner, te pardonner pour tout ce que tu as raté, tout ce que tu n'as pas vécu, et puis tout ce qui est expérience, voilà, que tu n'as pas aimé, voilà, j'en ai eu un paquet. Et puis comme ça, revisiter le passé, faire la paix. Faire la paix avec son passé. Purifier. On dit purger, c'est ça. Hein. Parfois, il faut purger, il faut nettoyer, il faut dégager l'eau sale, les saletés, et puis mettre de l'eau propre. Parfois, on a besoin d'aide, là où deux ou trois. Parfois, dire ça simplement à son ami, ses amis, son groupe de prière, voilà, tel domaine, ça résiste. Est-ce qu'on peut prier ensemble, le remettre entre les mains de Dieu. Et puis, il y a un exaucement quand on prie ensemble. Je vous le relis. Hein. « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Si vous vous accordez pour demander une chose quelconque, il peut préciser, hein, c'est tout le même, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Le Père est attentif à la prière de quelques-uns quand elle est au nom de Jésus. S'accorder dans le nom du Seigneur, mettre le Christ Jésus à la bonne place. Il est la tête, le chef de l'Église. L'Église n'appartient ni à Jean-Marc, ni à moi, ni à l'Église apostolique d'ailleurs. Elle appartient à Jésus. Ouais. Toutes les églises appartiennent à Jésus. C'est le corps de Christ, on dit le corps de Christ, invisible, caché. L'éternité révélera ce qu'est cette Église. On lira plus tard, hein, glorieuse, sans tache ni ride. On peut presque se penser de se dire, mais comment est-ce qu'une telle réalité peut être possible. J'aimerais lire avec vous. Alors, on va aller dans un livre qui fait un petit peu peur parfois à tout le monde, dans l'Apocalypse. Un livre merveilleux, extraordinaire. Je le travaille depuis tout cet hiver. J'ai trouvé un peu des nouveaux outils pour le travailler. C'est un livre extraordinaire. Au chapitre 1, les versets 19 à 20. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite. Les sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises. Les sept chandeliers sont les sept églises. Au chapitre 2, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Une parole qui s'adresse à l'église persécutée du temps des apôtres. Comme on dit, les Romains n'ont pas eu la main leste pendant 2-3 siècles. Les chrétiens ont été persécutés. Cette église aujourd'hui n'existe plus. Cette église d'Asie mineure, c'est la Turquie. Depuis le 7e siècle, l'islam s'est arrangé pour les laisser tomber, les laisser. Souvent, un culte idolâtre a été construit à la place. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Les chandeliers sont les églises. Jésus marche au milieu de ces sept églises locales. Mais elles représentent aussi un petit peu, voilà. Ça peut être une image de toutes les églises. Et puis, là, cette lettre ou cette église, voilà, sont assez typés. Jésus, le serviteur souffrant, Jésus crucifié, ressuscité, celui qui est monté, qui est à la droite du Père, celui qui est glorifié. La vision actuelle de qui est Jésus à la droite du Père, on la trouve dans l'Apocalypse, avec une description de cet être extraordinaire. C'est mieux que tous les films de science-fiction, d'anticipation. C'est pour ça que j'aime lire et relire ces visions du Christ glorifié. C'est une réalité spirituelle, là, maintenant. Pendant qu'on se retrouve là ce matin, il y a 2 semaines, on avait lu ce début de l'Apocalypse, hein, au milieu des 7 chandeliers, au milieu de cette église. Quelqu'un extraordinaire avec une ceinture qui est plein de feu, de fumée, de lumière, et il a dans sa main, c'est cette église à la droite du Père, et il intercède, il prie pour elle. Le Christ Jésus, ressuscité, glorifié, prie et intercède pour chacun d'entre nous ce matin. Quand on se prépare pour venir à l'église, quand on est ensemble, voilà, le Seigneur dit au Père, voilà, regarde un tel, un tel. C'est ton enfant, c'est mon frère, ma sœur. Voilà, c'est des choses qui me remplissent de choses extraordinaires. J'aimerais qu'on lise ensemble dans Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, pour moi, c'est vraiment le livre de l'Église. Bien sûr, il y a Corinthiens 12, 13, 14. Mais dans Éphésiens, je trouve pour moi, c'est un bon guide pour savoir comment vivre l'Église. Éphésiens 2, versets 4 à 10. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je dis souvent, créer une église, c'est pas compliqué. Si l'Esprit Saint nous conduit, c'est des offres que Dieu a préparées d'avance. C'est lui qui crée, qui construit, qui édifie, qui développe. C'est lui qui bâtit à cause de sa miséricorde et de son grand amour. Nous sommes là ce matin à cause de la miséricorde et du grand amour de Dieu. Partageons-le. Soyons miséricordieux les uns envers les autres. L'Écriture a ajouté, si quelqu'un a sujet de se plaindre, pour X raison, voilà, on bénit. On bénit, puis on dit, Seigneur, voilà, aide, soutien, pardonne. Nous étions morts. Sans Christ, je suis mort. Cinquante ans que je vis avec le Seigneur, je me dis, ah ouais, le vieux Michel, il est où encore? Il y en a encore un. Hein. Il y en a encore un. Clairement, il faut le dire, parce que je vais aller coucher. La vie nouvelle, la vie de résurrection. On a entendu dans la parole d'inspiration ce matin, ressuscité ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y a une gloire de l'Église dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu peut montrer à tous les anges, à l'ennemi, voilà, l'Église sans tache, ni ride, sainte, irréprochable, irrépréhensible. Le mot irréprochable, c'est un petit peu dur de faire avec, hein. Toute mon enfance, on m'a répété, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Ouh là là, il nous faut porter parfois une chape de plomb de tout ce qu'on n'est pas capable de faire. Toutes les ratées, toutes les erreurs, toutes les... Et puis Jean-Marc nous en parlait la semaine dernière. En moi, tu es une créature tellement merveilleuse. Ça fait un contraste, hein, entre ma perception de moi-même et puis cette nouvelle création, cette nouvelle créature que Dieu forme. L'Église est un témoignage de la richesse infinie de Dieu et de sa bonté en Jésus-Christ. On n'en a pas toujours conscience. On en prendra pleinement conscience plus tard. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je n'ai aucun mérite dans ce que je suis, ce que je fais. En même temps, je suis content de ce que je suis, de ce que je fais, la plupart du temps. C'est par grâce, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Accueillons tout le conseil, tout le don de Dieu, toute la grâce de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, il dit, avant de passer à table, ne vous privez pas. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. C'est gratuit. Déposons à ses pieds ce que nous sommes, avec les choses qu'on se reproche, les choses que les autres nous reprochent, les choses que l'ennemi nous reproche, et tu vas le dire, allez, couchez. Loin. Jésus est au milieu de l'Église. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Entrons dans ce flot, ce fleuve de l'Esprit. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ça, c'est un petit texte, je crois que c'est dans les Proverbes. Hein. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, voilà, bah, tout ce que le Seigneur va mettre sur mon chemin, je vais le faire sans... En arrêtant la machine de qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais parler. Ah, pouvoir mettre toutes mes impossibilités de côté, puis encore aujourd'hui, avec l'âge, parfois je me dis, voilà, il y a tout ce que je n'ai pas fait, tout ce que je voudrais encore peut-être faire, et puis... pouvoir continuer de tout remettre à Jésus. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Seigneur, aide-moi à entrer, à faire, à pratiquer les bonnes œuvres que tu veux me donner de faire. L'Esprit Saint prépare l'Église pour le retour de Christ. Moi, ça fait 2000 ans que ça dure, hein, puisque déjà, depuis... les Thessaloniciens, les Corinthiens, tout le monde attendait un petit peu le retour de Jésus. Puis on écrit à l'apôtre Paul, on dit, mais c'est quand? Il dit, bah, c'est en cours. Le retour de Jésus est en cours. Voilà. On ne sait pas quand, on sait où. Dans le ciel, du côté de Jérusalem, là-bas, tout le monde le verra. Et puis, même ceux qui l'ont perdu, ils en ont besoin, hein. Israël a besoin, aujourd'hui, je ne sais pas si vous priez pour Jérusalem. Voilà, ils ont besoin de voir celui qu'ils ont percé. C'est dur. Hein. Ils verront, ça c'est dans le prophète Zacharie, ils verront celui qu'ils ont percé. Et puis là, la miséricorde de Dieu, ils vont en avoir besoin. Comme nous tous. 2000 ans de l'histoire de l'Église. Depuis la Pentecôte, Jésus est au milieu de l'Église. Quel que soit notre regard sur cette Église, c'est vrai que moi j'aime l'histoire de l'Église, il y a des périodes, je trouve compliquées, hein, au Moyen-Âge, tellement de craintes, tellement de peurs, ce besoin de renouveau, de compréhension, comment il a fallu... une réforme, comment il a fallu des protestants, des évangéliques, pour secouer l'Église, et puis revenir à l'Écriture, revenir aux fondamentaux, 2000 ans de l'histoire de l'Église. Depuis une dizaine d'années, parfois j'essaye de trouver des revues, puis des livres sur l'Église orientale, très très mal connue. Les Églises orthodoxes, avec des noms, certaines des noms compliqués, puis des pratiques qui sont... à la télé, parfois, quand on montre un culte orthodoxe, avec l'encens, avec les vêtements, avec les icônes. Je me sens complètement étranger. Et en même temps, c'est l'Église de Christ Jésus. Comment appréhender tout cela ? On va fêter cette année donc le 1700e anniversaire de ce fameux credo. Le credo a été fait, je crois en Dieu, le Père, je crois dans le Fils, je crois dans l'Esprit, je crois à l'Église et je crois au retour de Jésus. Voilà, face aux hérésies et face à... Souvent, on a... une idée un petit peu comme ça, on dit, ah ouais, la première église, les premières églises, les premiers siècles d'église, ça devait être tellement extraordinaire. Ils avaient les mêmes problèmes que nous aujourd'hui. Il y avait plusieurs courants, plusieurs milieux. Les églises à Jérusalem, les églises à Antioche, les églises après qui sont parties en Asie mineure, qui sont parties en Grèce, qui sont parties Iran, la Perse aujourd'hui, l'Irak. Le berceau de la première église, pratiquement les trois quarts ont disparu. En Égypte, il en reste une petite partie, mais au Moyen-Orient, puis là, depuis 10-15 ans, les gens sont partis sous d'autres cieux. Puis en même temps, Jésus est au milieu de son église, il en prend soin, il la connaît. C'est pas toujours facile. Il y a les temps de percer. C'est pour ça que l'Apocalypse a été écrite. C'est pour encourager les chrétiens. Voilà, dans cette période où Rome marchait un peu sur les pieds de tout le monde et où il fallait s'incliner devant l'empereur, devant César, le Kaiser, le Führer. Alors beaucoup de gens aujourd'hui aimeraient tellement retrouver cette période. C'est simple, on a un empereur, on se prosterne devant, puis... Tout est plus simple. On lit encore 1 Corinthiens chapitre 12. Les versets 12 et 14. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Un seul corps, une seule église. Ça peut être difficile à comprendre. Première question que nous posent les gens qui en témoignent, ouais, mais voilà, les églises, c'est pas glorieux, hein. Il y en a tout plein, j'y comprends rien. Quand je me suis convaincu que j'ai voulu parler à ma sœur, pareil, elle m'a dit, ouais, les églises... En quoi est-ce que ça peut être intéressant ? En quoi est-ce que ça peut m'intéresser ? Verset 14, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres, plusieurs dénominations, plusieurs milieux, plusieurs traditions différentes. Verset 20, mais maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Verset 27, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Pas toujours facile de comprendre. Hein. Il y a des disciples de Christ dans toutes les dénominations. Toutes les dénominations. Comment est-ce qu'on peut être ouvert, aller vers eux, faire le dialogue? Souvent, on nous a posé à Jean-Marc, mais pourquoi est-ce que vous perdez votre temps à faire de l'écuménisme, à rencontrer des réformés des... Alors, il y a plusieurs niveaux d'écuménisme, hein, avec les catholiques, avec les évangéliques, les baptistes, les pentecôtistes, etc., etc. Toutes ces... Il y a des dimensions qu'on connaît mal. Les dimensions orthodoxes, les anglicans, tout plein d'autres traditions. J'aimerais juste terminer ce matin avec 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Versets 1 et 2. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. À l'Église de Dieu qui est à Kévin. Et ailleurs dans le monde, ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. C'est un appel. Hein. C'est un devoir qu'on avait dû faire quand on était au collège, Jean-Marc. Devoir d'été, c'est quoi notre appel à la sainteté? C'est valable pour toutes les églises, tous les chrétiens, tous les croyants, tous les enfants de Dieu, tous les fils et filles de Dieu, c'est pour tous, c'est universel. Appelez à être saints, tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et l'autre, que la grâce et la paix se donnent. C'est une prière pour l'Église dans le monde entier. Seigneur Jésus, que ta grâce et ta paix soient sur ton corps, sur ton Église, peu importe là où elle est, quelle qu'elle soit, que je la comprenne, que je ne la comprenne pas, que je la connaisse, que je ne la connaisse pas. Priez pour l'Église inconnue, invisible, celle qu'on ne voit pas encore, qui existe, mais qui n'est pas encore révélée. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. À l'Église de Dieu qui est à Kévin. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen.